en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le Centre de recherche pour un trésor de la langue française, TLF, fondé en 1960 par Paul Imms, fête ses 50 ans. Cet anniversaire a fourni à Robert Martin, membre lui aussi de l'Académie des inscriptions des belles-lettres, l'occasion d'évoquer Paul Imms, ce grand savant, linguiste et philologue, lors d'une séance de l'Académie le vendredi 15 janvier 2010. Paul Imms avait été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 27 avril 1972 au fauteuil précédemment occupé par Henri Terrasse. Robert Martin, académicien, médiéviste et linguiste qui participa au trésor de la langue française, fut directeur de l'Institut national de la langue française et président de la Société internationale de linguistique romane. Écoutez-le maintenant.
Monsieur Robert Martin, membre de l'Académie, à la parole pour la lecture de sa note d'information intitulée « Hommage à Paul Imms, 1908-1987, membre de l'Académie, fondateur en 1960 du Centre de recherche pour un trésor de la langue française ».
Merci, Monsieur le Président. Dans la vie de notre confrère Paul Imms, décédé en 1987, la date la plus marquante sur le plan scientifique est assurément celle de 1960, il y a donc exactement 50 ans. Paul Imms était alors recteur de l'Académie de Nancy. Il a pu réaliser, cette année-là, le projet qui lui tenait le plus à cœur et qu'il avait de longue date préparé, à savoir de créer, sous l'égide du CNRS, un centre de recherche pour un trésor de la langue française. Le centre a été implanté à Nancy, provisoirement dans les combles du rectorat, puis en 1964, dans un immeuble spécialement construit sur le campus de la Faculté des Lettres. Les conséquences en ont été de si grande importance pour Paul Imms lui-même, et plus encore pour la lexicographie et pour la linguistique française, qu'il a paru s'imposer d'en marquer l'anniversaire devant notre Académie. En 1960, Paul Imms est déjà un savant reconnu sur le plan international et dont la carrière se déroule brillamment. Né en 1908 en Alsace, à Sélestat, fils d'un boulanger, profondément attaché à sa province natale, Paul Imms a tout d'abord fréquenté l'école allemande. Il n'a appris le français qu'après l'armistice, poursuivant alors toutes ses études à Strasbourg. Agrégé de grammaire en 1932, il a d'abord été professeur de lycée à Lille, à Strasbourg, puis à Saint-Maur-des-Fossés. En 1943, il est appelé à la suppléance de Mario Roch à l'École normale supérieure de Fontenay aux Roses, puis à celle de Robert Léon Wagner à l'Université de Caen. En 1948, il est devenu maître de conférences à l'Université de Strasbourg, puis en 1954, après la soutenance de sa thèse, professeur de philologie romane. Le souci d'approfondir toute chose, loin de la facilité, une capacité de travail hors du commun, jointe à une volonté que rien ne décourageait, ont conduit à une œuvre scientifique impressionnante. Sa thèse sur les propositions temporelles en ancien français a largement contribué au renouveau des études de syntaxe. Paul Imms avait de l'ancien français une connaissance intime. Marqué par les idées linguistiques de Gustave Guillaume, dont il a suivi l'enseignement à l'École pratique des hautes études, et avec qui il entretenait des relations amicales, comme le prouvent les lettres depuis publiées dans la Revue du Français moderne en 2008, Paul Imms a su découvrir le contenu en langue, Gustave Guillaume aurait dit le signifié de puissance, des diverses conjonctions temporelles, et démonter admirablement les mécanismes combinatoires et tous les effets qui en résultent. L'ouvrage est paru aux Belles Lettres en 1956. L'auteur était d'ailleurs connu déjà par de nombreux articles et surtout par l'excellent opuscule de 1953 sur le subjonctif en français moderne, un livre d'une clarté exemplaire qui fait excellemment le point de la question et qui propose l'hypothèse féconde du mode corrélatif. En 1960 est paru « L'emploi des temps verbaux en français moderne » qui inaugure la collection de la Bibliothèque française et romane publiée par le Centre de philologie romane que Paul Imms a créé à l'Université de Strasbourg en 1956. Dans tous ses ouvrages, Paul Imms a le mérite de promouvoir, rejoignant ainsi des linguistes comme Robert Léon Wagner et Gérald Antoine, une approche du langage solidement fondée sur l'examen attentif des textes, nourrie par la tradition des études historiques, mais largement ouverte au progrès de la linguistique, à l'époque donc de la linguistique structurale et de la sémantique guillaumienne, unifiée des morphèmes grammaticaux. L'apport du linguiste ne doit pas faire oublier l'œuvre du philologue. Organisateur de colloques, en particulier de l'important colloque qui s'est tenu à Strasbourg en 1954 sur les romans du Graal au XIIe et XIIIe siècle, éditeur de textes, notamment de Fabliaux, Paul Imms a consacré à la littérature médiévale de nombreuses études où s'allie à la connaissance parfaite de la langue dans toutes ses variétés dialectales une rare familiarité avec les courants philosophiques et religieux. Parmi ses auteurs de prédilection figurent Chrétien de Troyes, Villon et surtout Guillaume de Machaut. Paul Imms a laissé une édition quasiment achevée du Voirdi, accompagnée d'une traduction en français moderne, complétée d'une introduction de Jacqueline Cerchilini-Toulet. L'ouvrage posthume a été accueilli dans la collection des lettres gothiques par notre confrère Michel Zinck. Mais c'est évidemment au trésor de la langue française, au TLF, que Paul Imms a donné le meilleur de lui-même. C'est lui qui en a conçu le projet et qui a organisé en 1957 au Centre de philologie romane de Strasbourg le colloque fondateur. L'idée initiale était de doter le français d'un instrument comparable à l'Oxford English Dictionary. L'ouvrage devait en effet couvrir toute l'histoire du français, depuis les serments de Strasbourg jusqu'au milieu du XXe siècle. Au bout de quelques années, cependant, il a fallu se rendre à l'évidence. Le projet était trop vaste pour se réaliser dans les délais impartis par le CNRS. On s'est donc décidé, à la fin des années 60, à le restreindre, du moins dans un premier temps. À l'époque, la plus récente, et on en a choisi, de le faire porter sur le français des 19e et 20e siècles, de 1789 aux alentours de 1960, un peu au-delà, dans les derniers volumes. Dans une préface lumineuse, consignée dans le premier volume en 1971, Paul Imms en trace les contours et les ambitions. Le projet était d'allier au mieux les exigences de la philologie et les acquis de la linguistique. Rien, en effet, dans le TNF qui ne soit dûment attesté. Le TLF est un dictionnaire de citations et non pas d'exemples forgés pour les besoins de la cause. Fondamentalement philologique donc, le dictionnaire organise la matière selon une grille sémantique qui met en tête le sens propre et qui en dérive dans une hiérarchie arborescente par des extensions, des restrictions, des métonymies et des analogies, toutes les acceptions attestées. Ainsi, par son exceptionnelle richesse, par la sûreté de sa documentation, par la clarté de l'exposé, le TLF est devenu le dictionnaire de référence pour le français moderne. Paul Imms a très fortement et durablement marqué l'entreprise, et cela au moins dans trois directions essentielles. Tout d'abord, par la place qui est faite à l'histoire. Paul Imms était intimement convaincu qu'une langue de culture ne peut se dissocier de son passé. Il a donc fortement plaidé, quoique le TLF soit devenu par la force des choses un dictionnaire de la langue moderne, pour qu'une rubrique soit consacrée article par article à l'étymologie et à l'histoire. C'était d'autant plus méritoire dans les années 60 que la linguistique se préoccupait alors de donner à la description synchronique un statut d'autonomie, l'argument constamment répété étant que les locuteurs d'une langue se comprennent parfaitement, même s'ils ignorent tout du passé de l'idiome. C'était tout de même oublié qu'en synchronie, bon nombre de faits ne trouvent pas d'explication en dehors de l'histoire. C'est le cas en morphologie. Seule la visée historique peut éclairer tant soit peu les innombrables irrégularités. C'est le cas aussi dans les faits dits de figement, en particulier dans les locutions. Pour comprendre une locution comme « reprendre du poil de la bête », il faut se rappeler que l'on prétendait guérir les morsures en y mettant des poils de la bête qui a mordu. En historien du français, Paul Imms a sauvegardé fermement, à côté de la perspective synchronique rigoureusement développée, la place qu'il faut laisser à la profondeur historique. Dans un autre ordre, son mérite a été de comprendre, dès 1960, la part que devait prendre désormais le traitement informatique. Il existait certes, à cette date, des entreprises mécanographiques moyennant des cartes perforées. Mais dans le domaine des sciences humaines, le centre du TLF a été le premier à être doté par le CNRS d'un véritable ordinateur. Le choix s'est porté sur l'ordinateur Bull Gamma 60, de fabrication et de conception française. Il a fallu, pour le loger, construire un bâtiment séparé, climatisé par le sous-sol. Le maniement n'en était pas très commode. Les rubans magnétiques étaient montés un à un et traités durant des heures. Le pupitre de commande était tout de même impressionnant. Il arrivait même que les techniciens étaient appelés à intervenir directement sur les éléments de la mémoire. C'était, il faut bien en convenir, la préhistoire. N'importe quel ordinateur de bureau est aujourd'hui 100 ou 1000 fois plus puissant que le monstre des débuts. Mais l'impulsion était donnée. Les textes étaient régulièrement engrangés, au point que, dès la fin des années 60, la base textuelle, qui est depuis devenue la base Frontexte, comportait déjà quelque 70 millions d'occurrences. Dès 1965, fonctionnait aussi un dictionnaire des formes fléchies, ancêtre des analyseurs d'aujourd'hui. Il a permis de regrouper, sous des lemmes adéquats, toutes les formes attestées. Les homographes étaient correctement repérés et partiellement traités. Par ailleurs, un programme spécifique a très vite été mis en place qui calculait, selon les principes de la loi statistique de Poisson, les corrélations significatives de vocables, ce qui a conféré au TLF une portée combinatoire jusqu'ici inégalée. Paul Imms a su encourager toutes ces initiatives et les promouvoir avec force auprès du CNRS. Il a pertinemment vu aussi, dès les débuts, que le TLF ne serait qu'une étape et que le centre qu'il a fondé devait se concevoir dans une perspective plus large et plus ouverte. L'impulsion qu'il a donnée a été féconde à plus d'un titre. À partir des années 1980, les progrès de l'informatique ont permis de rendre commodément accessible la base textuelle dénommée alors Frontexte. Les études françaises en exploitent désormais très largement la richesse, d'autant plus que des analyseurs performants permettent de la pourvoir de codes grammaticaux en attendant une codification sémantique. En facilitant si considérablement l'accès aux sources textuelles, Frontexte a révolutionné les méthodes, du moins documentaires, de la linguistique française. De son côté, l'informatisation du TLF, peu à peu réalisée après le décès de Paul Imms dans les années 90, a non seulement conféré au TLF, librement disponible sur Internet, une audience considérable, des milliers de connexions s'effectuent par jour à travers le monde entier, mais elle a ouvert une voie nouvelle dans le traitement automatique. Les données lexicographiques sont progressivement transformées en une base de connaissances qui devrait, à terme, enrichir considérablement les maigres dictionnaires automatiques actuellement disponibles. Il y a plus. En acceptant de restreindre le TLF à la langue des 19e et 20e siècles, Paul Imms a souhaité que le TLF s'accompagne peu à peu de dictionnaires portant sur les périodes antérieures. Ainsi, il a vivement encouragé le projet du dictionnaire du moyen français. En concluant le colloque de Düsseldorf en 1980, où ce projet a été pour la première fois évoqué, il a su résumer fortement les attentes. Par la suite, il a participé à toutes les tables rondes à Nancy qui ont précisé les objectifs et les méthodes. Le DMF a bénéficié ainsi de son expérience, de ses bons conseils et de son amical soutien. Le cinquantenaire de la création du Centre de recherche pour un trésor de la langue française méritait, je crois, ce bref rappel. Élu à notre Académie en 1973, Paul Imms a notamment prononcé en 1984, devant les cinq académies réunies, un discours sur Rivarol et sur l'universalité de la langue française. L'œuvre exceptionnelle de ce grand savant, qui fait honneur à notre compagnie, continue assurément à porter ses fruits.
Vous venez d'entendre Robert Martin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui évoquait Paul Imms de l'Académie lui aussi, et c'était le 15 janvier 2010.